franceinter.fr.
Vous allez bien, Jean-Louis-Étienne ?
Bonjour, très bien.
Voilà, vous êtes aux États-Unis, pratiquement à temps plein.
Hein, j'habite depuis un an et demi à San Diego, en Californie, et je suis venu pour quelques jours ici en France.
Avec un ouvrage qui s'appelle Nouvelle histoire naturelle, bien sûr, on va en parler. Et qu'est-ce que vous faites à San Diego ?
Je travaille sur un projet de station océanographique dérivante. Il en existe une à San Diego qui appartient au Scripps, qui est le grand centre océanographique de la côte ouest. Et c'est un vaisseau très particulier, donc j'essaye d'en reconstruire un nouveau avec l'expérience des Américains et les possibilités de calcul aujourd'hui qu'ont les ingénieurs.
Et qu'est-ce que vous allez faire dessus ?
Ça c'est une sorte de, on va dire, c'est une grosse bouteille pour l'imaginer, comme ça, et qui fait 100 mètres de haut. Il y a 75 mètres sous l'eau et 20 mètres au-dessus avec une habitation. Et c'est un vaisseau qui va se déplacer avec le courant. Il n'y a pas de motorisation, c'est le courant qui fait le déplacement. On exploite aussi un peu le vent, bien sûr, parce qu'on va tourner autour de l'Antarctique, donc autour du pôle sud. Il y a un courant assez fort qui est permanent, que les marins nous ont enseigné, qui s'appelle les 50e hurlants. Ça veut dire que ça hurle, il y a du vent en permanence, donc il y a du courant. Et ce courant qui tourne autour de l'Antarctique est une courroie de transmission entre tous les océans. C'est un facteur important du climat. Et on va y passer un an à tourner autour de l'Antarctique.
Alors, on va parler aussi du climat dans quelques instants, en rejoignant Nathalie Fontrelle, qui se trouve donc du côté d'Urban. Et puis, comme vous êtes le rédacteur en chef, Jean-Louis Étienne, de cette émission, un bon nombre de sujets aussi nous attendent.
CO2, mon amour, avec Ocofen, chaudière à granulés de bois, chauffage central écologique et économique. Rendez-vous sur ocofen.fr.
Ça se reconnaît un écologiste.
Les quotas de thon rouge.
Les OGM aujourd'hui ne servent à rien.
Il y a urgence à agir pour sauver la planète.
CO2.
Sans produits chimiques.
Mon amour.
Avec tous ces oiseaux à la con, ils sont 5 années.
Denis Chessou.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission qui empêche de polluer, de réchauffer, de penser en rond, en tout cas qui essaie, qui prend de le temps de ne pas aller trop vite, avec Sandrine Laurent et Philippe Duclos à la technique cette semaine, et assisté de Stéphane Combe, c'est Valérie Ayestaraï qui réalise l'émission. Allez, trois petites brèves, trois petits événements qui ont lieu cette semaine. Le silence est l'ennemi du piéton et une autolib électrique a renversé très rapidement sa première vieille dame. Donc vive le bruit des voitures et la culture réunie. Alors une idée pour cela, roulez fenêtre ouverte en mettant France Inter à fond. Vous éviterez peut-être un accident à votre prochain tout en le cultivant. Une autre information, le petit vin blanc qu'on boit dans les centrales nucléaires du côté de Nogent. Et oui, donc lundi dernier, quelques visiteurs avec une banderole Greenpeace se sont invités sans badge officiel sur le toit en béton de l'enceinte de confinement du réacteur pour y pique-niquer quelques instants. On espère qu'EDF remerciera les bénévoles de Greenpeace pour cet audit de sécurité gratuit. Quant à la prime de fin d'année du directeur de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine, elle semble malheureusement compromise. Et enfin, voiture toujours, la brillante idée, vous savez, souvenez-vous du circuit de F1 de Flins, cher entre autres à notre premier auto-ministre, et passé à la trappe avec succès fin 2009. Mais le Parisien nous apprend quand même que ça a coûté un peu cher, parce que le bétonnage, certes, des zones maraîchères et le gros de la gabegie des fonds publics ont été évités, mais la Chambre régionale des comptes d'Île-de-France a évalué le coût du projet de circuit, donc là c'est bien le projet, à près de 9 millions d'euros. Bravo aux heureux gagnants contribuables des Yvelines, qui paieront la note. Ah bah oui, la voiture, hein, ça coûte cher. Alors vous l'avez compris, Jean-Louis Étienne est avec nous. Ajusteur, tourneur, fraiseur, médecin, chirurgien orthopédiste, explorateur, homme du Tarn aimant parcourir en solitaire le pôle Nord ou en équipe le pôle Sud ou bien les atolls. On peut dire que l'aventure, les sciences, l'environnement, l'éducation donc animent cet homme qui est à la fois précis, méticuleux et qui a inventé sa vie. Et Jean-Louis Étienne, vous revenez donc avec un nouvel ouvrage aux éditions Jean-Claude Lattès qui s'appelle « Nouvelle histoire naturelle ». Donc un petit homme bien sûr à Buffon en passant, et l'autodidacte que vous êtes en fait a eu plusieurs influences, mais en tout cas deux très belles. D'abord, il y a un génial professeur de sciences naturelles qui s'appelait Jean-Henri Fabre, donc naturaliste du 19e siècle, et qui a consacré une partie de sa vie, enfin une grande partie de sa vie à l'étude des insectes et des plantes, des souvenirs entomologiques. Pourquoi il vous a influencé, cet homme-là?
C'était l'observation de la nature à l'échelle du regard, à l'échelle 1. Et il s'y est immergé complètement. Et là où il m'a touché, effectivement, c'est à travers tous ses livres sur la pédagogie qu'il a faite. C'était un pédagogue extraordinaire. J'ai encore lu récemment un livre qui s'appelle « La plante », qui est exceptionnel, qui est d'actualité. On parle là de la fin du 19e siècle, avec une précision dans le choix des mots et une chanson. Quand il parle des cigales, on les entend. Il a cet art de la pédagogie. Et donc, je me suis dit un jour, si jamais j'arrivais à parler des choses complexes avec la facilité qu'il a, et donc j'ai lu beaucoup de ces récits qui m'ont inspiré.
Et puis un autre homme, c'est Nicolas Bouvier, écrivain, voyageur.
Fabuleux. Ouais. Fabuleux, Nicolas Bouvier, je l'appelle le ciseleur des mots. Moi, quand j'ai lu Bouvier, il m'a donné envie d'écrire, en fait, Nicolas Bouvier, parce que quand il parle des voyages qu'il fait, quand il parle d'une situation, on y est dedans. Et je me disais toujours, mais moi, quand je rentre du pôle Nord, par exemple, j'ai vu des choses qui m'ont ému, qui sont fortes. Et je dis, c'était formidable, c'était super, c'était beau, mais j'ai rien dit encore, quoi, par rapport à ce que lui raconte avec ses phrases. Et donc, je me suis pris d'amour pour les mots, en fait, grâce à Nicolas Bouvier, parce qu'avec trois mots qui sonnent bien, bien placés, c'est de l'ajustage de précision, l'écriture, c'est trouver le bon mot comme un puzzle qui va donner tout d'un coup du sens à la phrase. Et j'ai trouvé une jouissance dans l'écriture grâce à lui.
Un peu à la croisée de ces deux personnages, hein, Jean-Henri Fabre et Nicolas Bouvier, donc ces nouvelles histoires naturelles. En fait, vous nous rappelez, vous nous dites que l'on s'est mis, l'être humain s'est mis en rupture de l'écosystème Terre. J'ai presque dire qu'on a quitté la planète, hein, aujourd'hui.
Oui, on a quitté le fonctionnement de l'écosystème Terre. C'est-à-dire que bon, ça s'appelle nouvelles histoires naturelles par rapport aux histoires naturelles, vous l'avez très bien évoqué, de Buffon. C'était des volumes extraordinaires, il y avait de l'abondance d'écriture et un paragraphe sur l'homme qui était très réduit, comme si l'homme n'existait pas dans la nature. Et si on regarde la nature, les animaux, chaque animal naît avec ses outils pour la vie.
Que ce soit un bec, des plumes,
exactement,
du venin,
quelque chose comme ça. Un oiseau n'achète pas un GPS en cours de vie.
Ah bon ?
Il a le sens inné, c'est extraordinaire, quoi, hein. Et l'homme arrive, parce qu'on est un animal quand même, moi j'appelle ça le mutant surdoué, on arrive avec une intelligence remarquable, on crée des outils d'une puissance tellement forte, effectivement, qu'on a pris le contrôle des espèces, des espaces, et que les autres espèces qui n'ont pas le temps de s'adapter n'ont pas d'autre choix que de se mettre en marche ou disparaître. Et donc l'homme est sorti de l'écosystème Terre au sens où cet écosystème où il y a la production primaire qui vient de la photosynthèse. Ensuite, il y a les consommateurs, tous ces animaux qui sont carnivores ou pas, ou végétariens. Et surtout, ils ont sur nous quelque chose que l'on ne sait pas faire. Ce sont des décomposeurs. Ce sont des recycleurs jusqu'au bout. L'animal paye même de son corps à la fin, qui est décomposé par les carnassiers, par les bactéries. Et tout ça, ça revient dans l'écosystème. Et tout d'un coup arrive l'homme qui se goinfre, j'appelle ça, il débarrasse pas la table au banquet de la mutuelle naturelle, quoi. Il laisse des restes partout. Enfin, donc l'objectif pour devenir durable, c'est réintégrer l'écosystème Terre.
Voilà. Et alors, l'homme a pris aussi possession du climat, sans forcément le savoir au début. Et là, on va faire un petit tour du côté d'Urban, parce que Nathalie Fontrelle, donc, avec Laurent Grou à ses côtés, donc, vous entend à d'Urban, où est un peu épuisé. Bonjour Nathalie Fontrelle.
Bonjour Denis, bonjour à tous les deux.
Voilà.
Bonjour Nathalie.
Alors, on vous a entendu dans le journal de 13h, on voit bien que ce n'est pas exactement un franc succès d'Urban. Qu'est-ce que l'on peut dire, je dirais, maintenant aux gens, vers quoi avancer? On voit très bien qu'on est extrêmement frileux, que l'être humain, et d'ailleurs Jean-Louis Etienne le dit bien dans son ouvrage, c'est-à-dire qu'il est programmé en fait pour résister, chaque espèce est programmée pour cela, voilà. Et là on est dans un système qui est beaucoup plus complexe et où tout se relie. Alors qu'est-ce que l'on peut dire aux gens, puisqu'on voit bien que, bon, alors Kyoto, d'accord, l'Europe est avancée quand même, plus groupée que les autres, bien, mais qu'est-ce que ça va être demain, ça, Nathalie, quand vous observez
alors,
tout
d'abord,
ça
D'abord un peu d'ambiance, parce que vous avez effectivement évoqué le protocole de Kyoto, signé en 97 par 36 pays seulement, hein, donc c'est quand même pas beaucoup, et qui est le seul accord contraignant qui oblige ces pays à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Et là, pendant 15 jours ici à Durban, on n'a parlé que de ça. Alors Kyoto, le protocole de Kyoto en anglais, en fait c'est KP, c'est Kyoto Protocol, et tous les délégués qui se succédaient à la tribune, ils avaient 5 minutes, hein, 5 minutes chacun pour déclarer, un, ce qu'ils avaient fait dans leur pays pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, et deux, ce qu'ils souhaitaient voir conclu, sortir de ce sommet qui n'en finit plus. Mmh. Eh bien, chacun a parlé de CAP, Kyoto Protocol.
Le protocole
de Kyoto est très important, même si encore une fois, il ne représente que 11% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Alors c'est vrai que l'Europe peut se draper dans sa vertu, dans son manteau vert, en disant bon ben on OK, on veut bien continuer, parce que vous savez que le protocole prend fin en 2012. Mais bien évidemment, ça ne suffira pas. Si l'Europe toute seule continue de réduire ses émissions de gaz à effet de serre, ça ne servira pas à grand-chose.
Jean-Louis Etienne, donc sur ce sujet du climat, peut-être aussi un questionnement par rapport à Nathalie Fontrelle.
Bonjour Nathalie.
Bonjour Jean-Louis.
Il est évident qu'on se doutait que des grands pays comme les États-Unis ne signeraient rien. Les États-Unis n'ont jamais signé aucun traité onusien. Ça veut pas dire qu'ils ne font rien. Et c'est là qu'il faut qu'on rattrape les choses. Il y a eu un enthousiasme extraordinaire à Copenhague, qu'est devenu le feu du public, pour la ferveur du public, pour faire quelque chose contre le climat. C'est ça qu'il faut sauver, parce que les États donnent des règles, mais ce sont les gens qui les mettent en œuvre. Donc il faut espérer qu'on va maintenir cette ferveur.
Comment on peut lutter contre la résignation, justement? Parce que l'indifférence, il y a obligatoirement une couche de la population qui est indifférente à cela. Très bien, mais c'est vraiment pas la majorité de l'espèce. En revanche, la résignation, il y a peut-être des gens qui se disent... Attendez, on voit ça, c'est gentil, mais qu'est-ce qu'on va faire puisqu'on voit que les États ne se mettent pas en mouvement? Alors, je ne sais pas, Nathalie.
C'est le problème de toutes les maladies chroniques. Ouais. C'est une fièvre chronique. Ça a commencé il y a un siècle et on va vers les complications. Et quand le médecin il vous dit, il faudra s'occuper de ça bientôt quand même. Vous voyez, quand vous avez un petit truc, c'est ça, on n'a pas le sentiment de l'urgence, parce qu'il y a une accumulation progressive, mais à un moment donné, on va aller vers les complications et elles vont arriver en rafale, les complications. Ouais. Donc. Ce qui m'inquiète un tout petit peu, c'est la démobilisation de tout un chacun, de nous tous, de manière à ce qu'il faut revenir à insuffler chez les gens qui sont eux-mêmes les acteurs. C'est pas parce que le président de la République a dit qu'il fallait 20%, parce qu'on voit pas ce que ça représente en tant que public, 20%. Mais par contre, parler du réchauffement climatique qui est une réalité, quand vous allez vers les régions polaires, surtout vers l'Arctique, je sais que Nathalie, vous y avez été, c'est spectaculaire ce qui se passe, la fonte. C'est une réalité qui va nous tomber dessus.
Nathalie.
Oui, justement, sur la mobilisation des citoyens, faut pas oublier quand même que nous vivons une crise économique et une crise du pouvoir d'achat qui l'emporte sur tout le reste. Moi, j'ai été frappée. Nous avons organisé un téléphone sonne, je crois que c'était mercredi soir, sur l'antenne de France Inter. Habituellement, quand on fait un téléphone sonne sur l'environnement, le standard saute, tellement il y a de questions et de questionnements. Et mercredi soir, il y avait très, très, très peu de questions. Et on a l'impression que le changement climatique est passé au second plan, alors qu'en réalité, la crise écologique et la crise économique, ce sont les mêmes. L'une se nourrit de l'autre. Et la crise climatique va certainement aggraver plus encore les problèmes économiques que nous connaissons. On ne peut pas les séparer.
Mais quand on touche à l'énergie, on touche à la souveraineté des États et on touche aux libertés individuelles. Donc on se rend compte que, encore une fois, la raison environnementale, si elle n'est pas étayée par une raison économique ou une raison de santé publique, elle est toujours faible.
Chère Nathalie, on va vous laisser repartir tranquillement. Là, vous avez presque terminé, on va dire.
Alors attendez, c'est très amusant parce qu'on s'amuse tellement qu'on a envie. Oui. On s'amuse tellement. On a envie de prolonger la fête. Oui. Alors si tout va bien, il devrait y avoir une séance plénière à 17h qui devrait durer 4 à 5 heures. Et puis ensuite, vers minuit, si tout va bien, il devrait y avoir une séance de conclusion qui devrait durer aussi 4 à 5 heures. Ils adorent passer des nuits blanches pour parler de rien et pour arriver à un accord qui n'aura ni queue ni tête. Et en plus, la majorité des délégués sont partis, donc je ne sais absolument pas avec qui on va signer ça. Mais bon
très bien.
Je vous tiens au courant.
Merci. Absolument. Merci. J'adore quand vous vous lâchez, c'est formidable. On vous fait de l'oxygène et puis à très bientôt, chère Nathalie, bien sûr, dans cette émission.
Allez, je vous envoie un peu de CO2. Moi.
Merci. Et puis, on vous envoie un peu de musique. Allez.
CO2 mon amour, Denis Chessou.
Não maltrate o que sou, aceite o que sou, não mude o que sou, não maltrate o que sou.
Não.
Quem bate não lembra, quem bate tem.
Ué, malandro, tô tirando onda com a minha cara, e aí? Leve contigo toda a minha doce, me largou, me deixou, não quer fazer amor. Fala da onde? Conta. E quem sou eu pra discutir? Quem sou eu pra duvidar? Foi você que me largou, me deixou pra lá. Fala da onde? Conta. Leve contigo toda a minha dor. Você me largou, me deixou, me falou, não quis mais fazer amor. Fala da onde? Conta. Deixa tudo pra lá. E bate na porta do céu pra quê? Pra chorar e pra depois vir com seu blá, 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 blá. Não maltrate o que sou, aceite o que sou. Não mude o que sou, não maltrate o que sou. Não maltrate o que sou, aceite o que sou. Não mude o que sou, não maltrate o que sou.
Flavia Coelho sur France Inter, choisie par Jean-Baptiste Audibert, notre programmateur. Vous l'avez compris, aujourd'hui en direct Jean-Louis Etienne, avec donc ce nouvel ouvrage, ces nouvelles histoires naturelles, où vous observez en fait la nature. Vous l'avez très bien expliqué tout à l'heure en disant « nous on est des piètres recycleurs », c'est le moins qu'on puisse dire. Lorsque l'on rentre par exemple dans une forêt, on se rend compte que tout est recyclé, quoi, tout se fait, on est en circuit fermé, donc c'est assez extraordinaire. Est-ce que ça vient d'ailleurs aussi de votre département du Tarn, quand vous étiez petit, vous avez observé la nature?
J'y ai passé du temps. Et oui, effectivement, on a évoqué Jean-Henri Fabre. J'ai retrouvé en lisant Jean-Henri Fabre une part de l'enfance. Effectivement, je suis né
à côté,
dans,
parce
dans
qu'il
le
était
Tarn,
de l'Aveyron,
que,
lui.
Que vous connaissez bien. Il était Aveyronnais, puis ensuite il est parti dans le Vaucluse. Et j'ai surtout senti cette nature quand je suis revenu de l'Antarctique. Ouais. Vous passez 7 mois, c'est sur une autre planète où il n'y a rien, pas de végétation, pas de couleur, rien du tout. Et j'ai débarqué dans le Tarn, c'était au mois de mai. Et tout d'un coup, je me suis dit, je suis dans la forêt vierge. Mmh. Vous soulevez une feuille, il y a tout un tas de sortes d'insectes. Et là, je me suis dit, mais la nature, elle est d'une puissance, même chez nous, parce qu'on a toujours l'impression que la nature forte, elle est... On parle toujours de l'Amazonie, des forêts tropicales. Les forêts françaises sont très, très riches.
Alors, Jean-Louis Etienne, quand vous observez la nature, vous êtes intéressé, bien sûr, aux sciences, à l'énergie. Vous avez d'ailleurs aussi de très, très beaux couplets alors, sur le climat. Donc là, il n'y a strictement aucune ambiguïté. Bon, vous expliquez aussi à votre manière, avec vos mots bien précis, pourquoi, évidemment, on continue à aller dans le mur aujourd'hui. Puis on s'en est bien rendu compte en écoutant Nathalie Fontrenade Urban. Vous mettez très, très en avant les énergies renouvelables. Vous mettez aussi les limites, aujourd'hui, des énergies renouvelables. Et puis, vous ne fermez pas du tout la porte, non plus, à quelque chose qui s'appelle ITER, dont on parle peu. Et donc ça va être un peu notre petit débat, parce que qu'est-ce qui vous intéresse dans ITER, et rappelez-nous ce que c'est qu'ITER.
ITER, c'est un soleil sur Terre dont on contrôlerait les réactions. C'est la fusion contrôlée des noyaux légers, on va dire. Et c'est ces réactions qui se passent, bien sûr, comme dans le soleil, à des centaines de millions de degrés. Et technologiquement, c'est complexe. Mais si on arrive à réaliser cette fusion et à la contrôler, on aura une source d'énergie, on pourrait dire quasi inépuisable à l'échelle de l'humanité, avec un impact sur l'environnement relativement limité.
Voilà, donc en fait, c'est de reproduire, on va dire, ce qui se passe dans le cœur d'une étoile, c'est ce qui les fait briller. Alors, deux personnes qui ne sont pas forcément d'accord, tous les deux sont physiciens. Michel Classens, vous êtes fonctionnaire européen, vous êtes chimiste, bien sûr, aussi de formation, physicien, et aujourd'hui, vous êtes donc sur le centre de Cadarache. Où en est-on sur ITER et qu'est-ce que l'on souhaite faire donc à terme avec ITER? Racontez-nous, Michel Classens.
Oui, donc à Cadarache, les constructions d'ITER ont commencé l'année passée. Elles vont encore durer 8 ans, 8-9 ans. Et la machine devrait être prête donc en 2020, novembre 2020, pour commencer les premières expériences, comme l'a décrit Jean-Louis Etienne, donc chauffer un gaz d'hydrogène à des températures de plus de 100 millions de degrés pour recréer les réactions qui se passent dans les étoiles et le Soleil en particulier.
On a l'impression que la fission, c'est relativement simple. C'est-à-dire qu'on bombarde de l'uranium qui vient d'Afrique ou du Limousin, peu importe, avec des neutrons, ça provoque de l'énergie. Tandis que là, il faut quand même sortir 100 millions de degrés.
Oui, mais au contraire de la fission, la fusion est une réaction très naturelle puisqu'elle se produit très largement dans l'univers, dans toutes les étoiles. Alors sur Terre, en effet, c'est un peu plus compliqué à réaliser. Mais ça se fait déjà, hein. Il y a plusieurs dizaines de réacteurs de fusion qui fonctionnent dans le monde, sans incident d'ailleurs. Et ITER sera le prolongement de toutes ces recherches en cours, et ça sera la machine, en principe, la plus performante au monde, qui donc est en construction en France, chez vous.
Alors Jean-Marie Brome, vous êtes vous aussi physicien, vous êtes chercheur au CNRS et au CERN. Je pense que sur le plan de la recherche fondamentale, vous êtes assez d'accord, c'est quelque chose qui est tout à fait passionnant. Il y a quand même des petits mais derrière tout ça, Jean-Marie Brome.
Il y a trois mais technologiques, pas physiques, parce que les équations, ça fait depuis 1937 qu'elles sont connues. Il y a d'abord le problème de réussir à avoir une fusion, pas seulement une fusion, mais une fusion qui rapporte de l'énergie. Ça, c'est une question, et c'est la question à laquelle ITER devrait répondre, d'ici 2040 peut-être, en réussissant 8 minutes de fusion énergétique. Mais il y a deux autres problèmes. Il y a le problème de contenir ce plasma et de récupérer la chaleur qui est apportée sous forme d'un flux de neutrons énorme, récupérer la chaleur pour faire du courant électrique, par exemple, sans trop dégrader l'enceinte d'ITER. Ça, on ne sait pas faire. Mmh. Et il y a la troisième chose, c'est apporter du combustible. L'hydrogène, on en trouve. Le tritium est très rare. L'extraire, c'est énergétiquement parlant, ça serait une gabegie complète. Donc on a des idées pour que ITER produise lui-même, enfin la fusion produise elle-même son combustible. Mais ces idées, on ne les a pas encore expérimentées, on ne sait rien. Donc si vous voulez, ITER va répondre peut-être à une des trois questions fondamentales pour avoir de l'énergie de fusion d'ici 2040. Et après, il devrait être suivi d'un prototype qui s'appelle DEMO, éventuellement qui s'appellera Proto, qui devrait être au moins 20% plus gros qu'ITER, qui peut-être à la fin du siècle nous donnerait un peu de courant électrique.
D'accord.
Je crois que c'est un pari qu'on ne doit pas prendre, parce que ce pari, en fait, et j'ai tout le respect que je peux avoir pour Jean-Louis Etienne, simplement nous dit que ayons confiance dans la science et dans la technologie. Et ce pari est très pernicieux parce qu'il nous dit en fait, vous inquiétez pas pour l'énergie, d'ici la fin du siècle, on aura la solution. Donc on peut continuer jusque-là à consommer tout ce qu'on veut.
Alors Jean-Louis Etienne et après Michel Classens.
Oui, j'ai effectivement souligné ITER parce que c'est une démarche scientifique et technologique qui est prometteuse sur le papier, et ça on est tous d'accord. De temps en temps on a des reproches sur le coût, mais je pense que quand on voit que la facture énergétique de l'Europe c'est 400 milliards par an, on peut dépenser pour se payer un soleil avec l'espoir qu'un jour effectivement on arrivera à le maîtriser, mais au-delà de
là,
la fusion...
Là, on est déjà, enfin, c'est déjà 16 milliards sur le papier. Hein. En 5 ans, le coût de la construction du réacteur a plus que doublé. On est passé de 5 à 16. Hein, quand
même. C'est pas encore le prix des Jeux Olympiques de Londres.
Oui.
Donc pour l'énergie, parce que là on parle d'énergie qui pourrait bénéficier à l'ensemble de l'humanité. Quoi, hein. Donc c'est, et vous avez raison de soulever, pour moi c'est l'équation du siècle, l'énergie. Et la fission qu'on connaît à l'heure actuelle, les générations, la génération 2, effectivement, elle va être à bout de souffle. Et là où je suis un partisan de la recherche nucléaire, c'est de continuer, parce que cette énergie, elle date de la création de l'univers. Et quand on n'aura plus rien à creuser, c'est-à-dire quand les réserves fossiles ne seront plus là, il va falloir qu'on fasse appel à notre intelligence, passer à des flux. Et cette intelligence, on l'a, mais ça va prendre du temps. C'est pour ça que je dis qu'on est certainement au milieu du guet et il ne faut pas arrêter.
Michel Classens, donc un peu sur ce thème-là, parce que bon, vous êtes tout à fait enthousiaste d'un côté, et Jean-Marie Brome, bon, là, on l'a bien compris, n'a rien contre la recherche fondamentale, loin de là, mais quand même nous dit que c'est quand même un peu délirant cette affaire. Michel Classens.
Délirant, pas du tout. C'est un projet, mais c'est un projet de recherche, donc il y a encore des questions, en effet, qui méritent d'être étudiées, et c'est le but d'ITER. Mais déjà à l'heure actuelle, on a quand même des solutions partielles, en tout cas, au problème que Jean-Marie Brome a évoqué, et ITER devrait permettre de contrôler un plasma pendant beaucoup plus longtemps que 8 minutes. Sur la question du coût que vous avez évoqué, n'oubliez pas que l'enjeu d'ITER, de la fusion en général, c'est quand même peut-être, si tout va bien, d'offrir une nouvelle source d'énergie à nos enfants et à nos petits-enfants. Mmh. Alors 15 milliards d'euros à diviser par 34 pays, ITER c'est 34 pays, c'est la plus vaste collaboration scientifique internationale pour un enjeu qui est de taille. Le grand scientifique Stephen Hawking, que tout le monde connaît, auteur de livres à succès, spécialiste des trous noirs, Il a dit, pour moi, la question scientifique, technique, qui à l'heure actuelle mérite d'être résolue avant la fin du siècle, c'est la fusion.
Alors la France a quand même en payé 34% dans cette affaire. Jean-Marie Brome, juste avant de, peut-être avant de conclure, parce qu'on ne peut pas évidemment, on ne va pas tout faire sur ITER, on a d'autres thèmes dans cette émission. Est-ce que, moi je suis un peu provocateur, mais est-ce que le lobby nucléaire ne se pérennise pas avec cela? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'est pas en train de se payer une assurance vie avec ITER?
Bien sûr. Le lobby nucléaire se garantit que jusqu'à la fin du siècle, quelle que soit la solution, elle passera par quelque chose de nucléaire. Et puis vous savez, quand on prend des arguments publicitaires comme le soleil, moi je veux bien, mais on nous dit on va mettre le soleil en bouteille. Bon, pour reprendre ce que disait Georges Charpak, on ne sait pas faire la bouteille. Ça, c'est autre chose. Mais tant qu'à faire, au lieu d'essayer de recopier le soleil sur Terre, le soleil nous envoie aujourd'hui à peu près 100 000 fois plus d'énergie que la planète n'en consomme. Même avec un petit rendement, il suffit de capter l'énergie que nous envoie le soleil, pas la peine de recopier le soleil.
Mais quand vous l'avez capté, comment vous la stockez ?
Mais j'ai des moyens de la stocker. Alors, techniquement parlant, vous inquiétez pas. Il y a aussi
si, je m'inquiète. Je m'inquiète parce que ça fait 10 ans que j'essaye de comprendre. Ça fait 20 ans que j'utilise des énergies renouvelables pour mes expéditions. Je suis un farouche défenseur de ces renouvelables que j'utilise dans tous mes voyages.
Oui, c'est incontestable, ça.
Et je vois toujours que ça se termine par le groupe électrogène. Alors, tant que l'on a des fossiles, ça va. Le problème, c'est le jour où on n'aura plus rien à gratter dans le sol, c'est-à-dire dans un siècle, ou même avant le siècle, on va dire. Et c'est très très court, vous le savez bien, à l'échelle d'une réflexion sur l'énergie pour une population planétaire.
Bah écoutez, il y a des satellites qui fonctionnent à l'énergie solaire. Sans rentrer dans le détail, il y a plusieurs solutions qui existent. Il y a des solutions mécaniques de lacs et de chutes d'eau. Il y a des solutions de décomposition de l'eau, par exemple.
Oui, on fait de l'hydrogène, bien sûr.
Il y a beaucoup de choses qui existent.
Oui, enfin... Bon. Non, il y a des solutions, mais en quantité, ça ne comblera jamais la consommation énergétique planétaire.
En
ça
tout cas, un grand merci à vous, Jean-Marie Brome, et puis donc merci à vous, Michel Classens. Voilà, donc ça, c'est des propos autour d'ITER. Oui, alors après, on peut se poser la question aussi, est-ce que le fameux budget ne va pas assécher d'autres budgets de recherche? Ce n'est pas impossible du tout. C'est intéressant d'avoir aussi en ligne Dominique Bourg. Vous souhaitiez, en tant que rédacteur en chef de cette émission, Jean-Louis Etienne, avoir Dominique qui est philosophe, qui s'intéresse à l'histoire de l'environnement depuis très très longtemps, qui est aujourd'hui à l'Université de Lausanne. Bonjour Dominique Bourg.
Bonjour à vous deux.
Bonjour Dominique.
Vous venez d'écrire d'ailleurs un ouvrage collectif qui s'appelle « Pour une sixième république écologique ». Donc tout ceci vous passionne. Alors peut-être questionnement de la part de Jean-Louis Etienne vers Dominique Bourg.
Ben écoutez, je suis passionné par ce que vous écrivez. J'aime beaucoup votre réflexion. Et il est évident que, à l'heure actuelle, le mouvement écologiste n'a pas confiance dans la science, n'a pas confiance dans la technologie. Et je voulais avoir votre vision personnelle sur cet avenir.
Voilà, bah écoutez, justement, moi je ferais bien le départ entre une chose que vous avez constatée, Jean-Louis, c'est-à-dire l'intelligence humaine, quand il s'agit de concevoir une technique, quand il s'agit de s'adapter dans un temps court, et puis à l'échelle d'un espace court. En revanche, quand il s'agit de réfléchir en collectif, de penser à des solutions globales, il suffit de se souvenir de ce que vient de nous dire Nathalie Fontré il y a quelques minutes encore, elle n'a pas tout dit. Si les gens sont partis, c'est parce qu'ils n'ont pas assez d'argent pour payer un nouveau billet d'avion. Voyez où on en est et sur quoi se joue le destin de l'humanité. Donc nous sommes une espèce très performante sur le court terme et en matière technique, mais nous sommes une espèce qui est incapable de réfléchir un peu plus large, de penser aux finalités de la société. Et la discussion que je viens d'entendre sur ITER est assez passionnante de ce côté-là. Mais après, je reviendrai, l'équation que je partage, et on est vraiment dans la difficulté, c'est le moins qu'on puisse dire, et souvent on raconte des bêtises de part et d'autre. Mais à quoi ça servirait ITER? Imaginons qu'on le maîtrise réellement, et qu'on ait une énergie infinie à notre disposition. Mais Jean-Louis, ça serait une catastrophe. Parce que précisément, c'est l'énergie, et c'est une énergie à bas prix, bon marché, qui nous a permis, alors à la fois, c'est vrai, de créer un confort génial, ça il faut absolument le reconnaître, mais en même temps de semer un bazar et de faire une espèce de razzia de toutes les ressources planétaires. Donc moi j'aimerais bien qu'on associe aux moyens techniques les questions sur les fins. Et là effectivement, ITER pose sans doute pas le même problème. Maintenant là où je vous rejoins totalement, c'est qu'on est vraiment dans la panade. Hein, c'est-à-dire qu'effectivement, les renouvelables, tant qu'on ne saura pas stocker l'énergie, entre la puissance installée et puis finalement ce qu'on produit en une année, l'écart est quand même souvent gigantesque. Mmh, donc c'est une énergie complémentaire, c'est en aucun cas une énergie de substitution pour le moment, hein, aux fossiles. Et donc, là, évidemment, tout le monde pense au nucléaire. Alors, en deux mots, sur une question aussi compliquée, moi, ce que j'aurais envie de dire, c'est qu'effectivement, dans un monde idéal, moi, je préférerais m'en passer très, très vite. Dans le monde dans lequel on est, c'est une chose beaucoup plus complexe et qui demande réflexion sans idéologie. Moi, je préférerais qu'on la réduise, mais qu'on la réduise au prorata et au fur et à mesure des économies qu'on sait faire. Et ça, franchement, nous en sommes loin.
Oui, mais là, je vous suis complètement. Tant que le jour où on saura effectivement trouver autre chose, il faut dire quand même que la génération 2 de la fission nucléaire actuelle, moi, j'appelle ça, on est au stade des boutons, avec tout le respect que j'ai pour les ingénieurs et les savants qui ont travaillé dessus. Bon, ça produit des déchets, on en connaît aujourd'hui les limites. Elles alimentent quand même, en France, 3 prises sur 4 à la maison. Donc, c'est un apport absolument considérable. Et donc, il y a quelque chose qui me gêne un peu quand on fait d'un anti-nucléaire une façon politique de se positionner, c'est de balayer, je dirais, cette intelligence humaine qui a été investie dans cette solution, dont on connaît bien sûr les limites, mais je trouve qu'il y a, encore une fois, sur le papier, la génération 3, bon, on la connaît, elle est en transition avec ce qu'il faut espérer la génération 4. Et je ne suis pas pro-nucléaire, je suis pro-énergie, parce que ce dont on souffre le plus, c'est du manque d'énergie. Et donc, ce qu'il faut effectivement éviter, et je vous suis totalement, quand vous dites le nucléaire doit petit à petit, ou non, je ne sais pas, mais remplacer, mais quelque chose, le jour où on aura assis une énergie renouvelable dont on sera sûr, par exemple. Mais on en est très très loin, l'écart est trop large.
C'est-à-dire que de mémoire, il doit y avoir 2 milliards d'individus sur Terre qui n'ont pas d'électricité aujourd'hui.
Un peu moins,
okay.
De grandeur.
Ben, ça nous donne effectivement quand même quelques idées là aussi. Pour une 6e République écologique, en quelques mots, Dominique Bourg, donc aux éditions Odile Jacob, l'idée, alors,
c'est de résoudre l'équation, si vous voulez. Nos démocraties contemporaines, elles sont fondées sur un pacte social, alors qui est bien à la peine aujourd'hui, hein. C'est que chacun puisse produire et consommer le plus possible. Et du tout, ça a créé une espèce d'addiction à des consommations purement matérielles, alors que les aspirations, les aptitudes humaines sont quand même beaucoup, beaucoup plus larges. Et donc, pas facile de tenir compte des limites de la planète, et on s'y heurte de plus en plus, on vient d'en parler avec l'énergie, avec le climat juste avant, de trouver des moyens d'infléchir de façon démocratique, sur le moyen terme, ça peut évidemment pas se faire très vite, nos modes de vie, et pour enfin redonner leur place aux enjeux de long terme. Et Nathalie tout à l'heure le rappelait, c'est effrayant, hein, le raconter cette émission finalement, il n'y a pratiquement pas de gens qui posaient des questions. On en est là aujourd'hui. Donc on a vraiment besoin d'un contrepoint institutionnel, hein, comme, du genre de ce à quoi pouvait penser Montesquieu, de contre-pouvoir pour replacer au cœur de nos décisions les conséquences de nos choix sur le long terme. Alors c'est ça l'objet de ce livre, grosso modo.
Merci beaucoup Dominique Bourg. On va poursuivre ce voyage avec vous, Jean-Louis Etienne, et puis d'autres sujets qui nous attendent.
Même à 20 bornes de bandole, c'est la déprime sans parabole. À la campagne, t'entends des cloches, ça fait tout drôle sans Macintosh. En plein centre-ville, danger, y a du danger sans la 3G. On ne sait plus s'ennuyer, on ne sait plus s'ennuyer. On ne sait plus s'ennuyer, on ne sait plus s'ennuyer. Il s'est retiré dans le Berry en oubliant son Blackberry. Elle prend des cours de cha-cha-cha avec sa souris. Ce soir c'est moi qui sors chérie, comme ça je promène un peu l'ordi. On ne sait plus s'ennuyer, on ne sait plus s'ennuyer. On ne sait plus s'ennuyer, on ne sait plus s'ennuyer. Que serions-nous sans connexion, à part des gens pleins de questions. On vit maintenant tous sans réseau, comme des animaux dans un zoo. On est tout mou sans disque dur, on est tout nu dans la nature. On ne sait plus s'ennuyer, on ne sait plus s'ennuyer. On ne sait plus s'ennuyer, on ne sait plus s'ennuyer. n'entend plus les oiseaux chanter. C'est pas compatible USB. Avant la vie était basique, avant la vie était physique. Dans le fond d'écran t'as un soleil, mais c'est pas tout à fait pareil. On ne sait plus s'ennuyer, on ne sait plus s'ennuyer. On ne sait plus s'ennuyer, on ne sait plus s'ennuyer. On ne sait plus s'ennuyer, on ne sait plus s'ennuyer. On ne sait plus s'ennuyer, on ne sait plus s'ennuyer.
Mais oui. C'est la fin, il y en a 30 secondes encore ? Ah bah non, on va s'arrêter, hein, on va s'arrêter, on va lui faire demander de faire un petit créneau quand même à Thomas Dutronc. On ne sait plus s'ennuyer, il a raison. Laissez vos gamins s'ennuyer. C'est comme ça que la créativité donc, naît. Lorsque les gamins ont un emploi du temps de ministre, en général...
C'est ce qui est le plus difficile. Hein.
C'est terrible. C'est absolument terrifiant. Il faut qu'ils fassent tout et qu'ils fassent l'ENA à 8 ans et demi, les pauvres. Jean-Louis Etienne, alors là, on va se faire une respiration. On va retourner dans la nature. C'est un petit cadeau. On va aller chez vous. Vous êtes un homme qui habitait, originaire de Vielmur. Alors, Vielmur n'est pas peut-être le centre du monde. Nous sommes dans une vallée qui s'appelle la vallée de la Goutte. Bah, là aussi, d'ailleurs, les hommes ont fait un vrai boulot parce que vous et moi, on a appris à nager et la rivière était assez polluée. Et puis, on s'y est mis et on a réussi donc à dépolluer à peu près cette rivière. Et pas très loin, eh bien, il y a cette montagne que vous connaissez. C'est parti. Bonjour Patrick Rossignol.
Bonjour Béni.
Alors on est chez vous dans ce très beau département du Tarn. Et là, on va respirer le soleil déjà. Et on est en train de gravir, oh, pas en entier, mais quand même ce qu'on appelle cette montagne noire. Et on va situer un petit peu les lieux. Parce que là, si on se retourne, on a quand même ce qu'on appelle le pays de Cocagne. On a le Lauragais, c'est ça là côté, on n'est plus sur le côté sud là.
Non, là on est sur le versant ouest. Là, c'est...
Ah oui, entre les deux, pardon.
Mais on a le côté sud derrière, là, c'est le charme de cette région, c'est qu'on est, on a des pleins de contrastes, d'oppositions, parce qu'avec des versants, avec des influences océaniques d'un côté, méditerranéennes, même au niveau climatique, un peu le nord, donc avec une variété là. Là on le voit là, hein, quand on va monter, on va passer dans les... différentes zones où on va voir des végétations, la végétation tout à fait différente suivant où est-ce qu'on passe.
Alors qu'ils vont être mêlés parce que si on était vraiment complètement côté nord, eh bien on trouverait du chêne, du rouvre, et puis complètement côté sud, ce serait plutôt de la garrigue, et puis du pin, et là on est un peu entre les deux quoi.
Voilà, suivant les couches géologiques aussi, les influences climatiques, mais les couches géologiques, c'est-à-dire qu'on va passer sur une variété de couches géologiques. Là on est sur une partie calcaire, donc où on retrouve l'influence méditerranéenne, même en étant sur le versant océanique, alors qu'après, quand on va arriver sur les schistes, on va trouver justement les forêts de hêtres ou de résineux, eux, plus adaptés aux conditions océaniques.
Alors Jean-Louis Etienne, vous connaissez ces lieux, hein, cette montagne noire, vous la connaissez par cœur presque. Hein.
Oui, j'ai fait des rêves himalayens sur la montagne noire, qui est une forme de ballon d'Alsace, c'est tout rond, la montagne noire, ça s'appelle le pic de Nord, mais c'est un pic rond. Et la végétation s'arrête à 1000 mètres. Et j'y allais l'hiver, où il y avait du givre sur les, ou de la neige. Et je m'imaginais un Himalaya. J'ai fait mes premières grandes ascensions. Là.
Alors, on va faire une ascension un peu plus modeste avec Patrick Rossignol, que vous venez d'entendre, qui a deux activités. Il est agriculteur, il fait des céréales dans la plaine. Et puis, il est accompagnateur nature. Donc, on n'est pas très loin de Dourgne, hein, de Sorèze. Petit reportage naturaliste, découverte d'un lieu, d'un équilibre d'ailleurs qui n'est pas toujours respecté. Hop, c'est parti, dans le département du Tarn, qui est superbe, dans la montagne noire. Pas avec Jean-Louis Etienne, mais il n'est pas loin.
Là, je peux dire qu'on a démarré volontairement un peu dans la forêt parce que quand on va arriver plus haut, on n'arrivera peut-être plus à se parler. Déjà, on va s'accrocher un peu parce que c'est un vent qui est très violent. Ouais. Même on dit qu'il y a des rafales, il est supérieur au Mistral, alors que la référence souvent c'est le Mistral. Et bon, là, cette montagne noire fait barrage, fait un rideau là, hein, comme un mur. Et donc, nous, en étant de l'autre côté, ben, on a tous les à-coups et ça arrive par rafale. On dit que c'est le vent qui rend fou. Bon, là, on va...
Là, on baisse la tête, on est un peu comme les Indiens.
On va sortir de la forêt, arriver sur la crête, et là déjà, on entend déjà la violence du vent, et je pense que là, il va falloir même vraiment baisser la tête.
Oui.
Mais on va arriver sur un promontoire qui va permettre d'avoir la vue sur le... Derrière nous, on aura la montagne, et puis devant, toute la plaine.
C'est-à-dire que vous aurez la vue, vous n'aurez plus le son, quoi.
On n'aura plus le son. Par contre, si elle sera au-dessus de Dourne, et donc là, on va voir une statue qui représente Saint-Stapin, hein, qui est le patron de Dourne, et donc avec tout le légendaire qui va autour.
La Capelette et Saint-Stapin. La belle église.
Voilà.
Perdue dans la montagne et qui domine alors. Là aussi, toute la plaine, là, elle est tournée vers, on va dire, vers le Sidopre, vers Castres.
Vers Castres.
Et Saint-Stapin,
il a. Saint-Stapin à côté, voilà.
Ah oui, il fait pas ratonner, lui, quand même.
Ah oui, ça fait un peu fusé, là. Mais c'est pas.
Ah oui, dis donc.
C'est un peu plus esthétique. Mais...
Et là, la Capelette, direction.
Alors, la Capelette, c'est la petite chapelle qu'on voit en face. Ouais. Et là, on est sur un sentier qui nous permettra, en descendant, en passant au-dessus d'une grande carrière de calcaire métamorphique, c'est-à-dire de pierre à concasser, qui est en activité, descendre derrière. Là, il y a des ardoisières, donc des schistes, donc on passe sur une autre couche géologique et on remonte derrière sur le plateau, donc à la Capelette, cette petite chapelle que l'on voit d'ici, là, sur l'autre promontoire en face. Là, on est, Denis, on va quitter un peu ce sentier.
Oui.
On va faire un petit détour, on va aller voir, là, il y a une source qui est... Voilà. Qui est intéressante à voir.
Ça glougloute.
Comme de nombreuses sources.
Bon, c'est la naissance de l'eau, là.
C'est pour un peu parler, peut-être, cette montagne noire, c'est quand même un réservoir d'eau, quoi. Hein. Bon, il y en a qui ont su l'utiliser. Et bon, tout le monde connaît le canal du Midi et puis l'œuvre de Paul Riquet. Et bien voilà, c'est comme ça, en se promenant, un peu comme on est en train de faire,
d'accord,
là. Et puis trouver, il essayait de repérer des sources comme celle-là, justement, et qui ont permis d'alimenter la Rigole, qu'on a vue tout à l'heure, et puis voilà, l'amener et alimenter le canal du Midi. Et là aussi, utiliser la nature, mais avec ce côté économique, quand même.
Absolument.
Et respecté, parce qu'il était lui aussi amoureux de sa montagne noire. Et voilà comment la valoriser et rendre, même à la limite, il venait rendre service aux populations, c'est-à-dire aux agriculteurs, puisque après, ça a servi à transporter du grain, du vin. Ça, donc, il y avait ce volet économique qui est lié à partir de cette nature et peut-être d'une source comme celle-là qu'il avait déviée pour alimenter le canal.
Alors dans cette montagne noire aussi, Patrick Rossignol, on va parler du ventre de cette montagne parce qu'en fait, elle regorge de minéraux. Là, on ne voit pas, mais vraiment en dessous, si on tape un peu dans le caillou, on va trouver des tas de choses. On va trouver du fer, on va pouvoir trouver du cuivre, on va pouvoir trouver du plomb, de l'argent, et puis de l'or côté au doigt avec Salsigne.
Hein. Oui, c'est vrai que c'est une région géologiquement qui est très ancienne, puisque bon, c'est d'origine hercynienne, mais qui est très riche en minerais, en tout genre, et qui a été utilisée. Et à certaines périodes, donc on a eu des grandes mines, même au Moyen-Âge, là au-dessus de Sorèze, il y a la mine du Calel, qui était vraiment très importante. On peut descendre jusqu'à moins 120 mètres de profondeur. Au Moyen-Âge, ils allaient explorer pour remonter des nodules de fer, extraire du fer. On voit des traces dans toute la grotte, qui fait à peu près 5 km ou 6 km de galerie. Et ça a été exploré pratiquement partout. Donc c'est impressionnant, plus tout le plateau. Oh, quand on se promène, là, on peut voir des trous. Tout ça, ça a été creusé. Ce n'est pas des dolines naturelles.
Puis, quand on parle de Salsigne, quand même, c'est vrai qu'on a extrait quand même de ce coin-là 700 000 tonnes de minerais au total depuis 1924, ce qui a donné, je crois, à peu près un peu plus de 70 tonnes d'or. Ça a donné 200 tonnes d'argent, 20 000 tonnes de cuivre et puis aussi de l'arsenic.
Ouais.
Et là, problème, parce que quand même méga pollution à cause de l'arsenic.
Ça, c'est un peu... La verrue, et puis comment le traiter. Il y a des entreprises qui essayent de venir là pour le traiter, mais c'est vrai que ça reste un peu une
pollution des sols quand même bien
là,
solide.
Beaucoup d'exploitation, des fois on n'anticipe pas
Toujours.
Et non.
Bon, et tout à l'heure on disait que, bon, en tant qu'agriculteur, mais c'est vrai que des fois on se pose des questions. Bon, en ce moment il y a des débats.
Oui, sur les OGM, histoire de...
Moi, en tant qu'agriculteur, je me pose des questions. Je dis, moi, trouvez-moi un agriculteur qui aura du plaisir à sortir sa cuve à désherber. Si on lui propose de travailler plus proprement, eh bien, sa passion, il y a quand même une passion dans le métier d'agriculteur. Moi, je le fais, c'est vrai que j'ai du plaisir à le faire. Je vois mon fils qui veut s'installer aussi. Ça fait plaisir de voir la passion qui y met. Donc on n'a pas envie de tout détruire, bon, notre sol, on a envie d'y faire attention, on n'a pas envie aussi honnêtement d'aller empoisonner les autres.
Votre discours est tout à fait intéressant, mais c'est bien parce qu'on était parti sur la montagne noire, voilà. Et peut-être parce qu'on redescend un peu vers la plaine aussi, que là ça vous rappelle votre métier, parce qu'on doit voir vos parcelles qui sont donc un peu...
Elles ne sont pas loin là, si, on est juste au-dessus, mais c'est parce que c'est vrai que moi,
c'est lié, quoi.
Voilà, c'est un endroit où je vis. Et je ne fais pas juste comme ça, même quand on va se promener avec un groupe, je ne vais pas parler juste comme ça du paysage et du décor.
Non.
J'ai envie de parler de l'endroit où je vis, avec, et qu'on puisse avoir un échange et se respecter, justement. Et puis, bon, s'échanger des idées, quoi, sur l'évolution à donner à notre société.
Bon, qu'est-ce qu'on se dit ? Adicias, c'est ça ?
Allez, Adicias.
Et, ben voilà.
Et une prochaine fois.
Et une prochaine fois. À bientôt, Patrick. Et merci beaucoup.
Merci aussi.
De mon amour, ces petites émissions qui respirent sur France Inter.
CO2, mon amour, Denis Chessou.
Voilà, avec Patrick Rossignol, on est descendu donc de cette montagne noire avec ce vent d'autant, hein, wow, que vous connaissez.
Ah, oui, ça fait beaucoup de bien.
Hein, oui, ça respire.
Oui,
hein,
oui.
Et alors derrière tout ça, quand on parlait des minerais, c'est aussi un concentré de ce 21e siècle. En fait, vous nous rappelez très justement, bon, d'abord, la rareté, c'est le maître mot du 21e siècle, et qu'il va falloir avoir une performance, on va dire, optimale avec le minimum de matière et d'énergie demain.
Et oui, enfin, de plus en plus nombreux, et surtout de plus en plus nombreux avec de l'appétit. Les pays en voie de développement ont de l'appétit, on le voit bien. Et donc, les ressources du sol ne sont pas infinies, quoi, hein. Donc, il va falloir, bien sûr, apprendre à recycler ce qu'on a déjà extrait. Et puis, il va falloir être performant, c'est-à-dire faire autant. Mais je pense qu'il va falloir faire plus avec moins. Mmh. Et bien sûr, se dessinent les usages des nanotechnologies qui illustrent ce qu'on arrive à faire avec le minimum de matière. Ça, on retrouve là la super intelligence humaine. On retrouve là le mutant surdoué qui est l'homme, qui est capable de créer des choses extraordinaires. Et pour revenir sur ce que disait Dominique Bourg tout à l'heure, on a une animalité, vous l'avez évoqué, Denis, on est des animaux. Et l'animal, il est expansionniste, il est programmé pour ça, pour prendre le terrain, pour développer son espèce. Et ça date pas d'hier. Quand la France était assez peu peuplée, on était déjà des colonisateurs. On partait ailleurs chercher des nouvelles terres, alors qu'on avait largement de quoi ça suffire ici sur le pays. Donc on est des vrais animaux. On a en plus une conscience. Une conscience, on est lucide sur les dégâts qu'on fait à sa planète. On est lucide sur qu'on ne pourra pas continuer tout le monde à ce rythme-là. Il va falloir changer de paradigme, changer la façon de le faire. Et donc il faut que notre conscience grandisse et rattrape notre animalité, quoi. Mmh. On a une intelligence créatrice remarquable, on a une intelligence relationnelle qui est très pauvre. Et donc c'est cette culture qu'il faut qu'on développe. Et c'est la démocratie qui aidera à le faire, c'est-à-dire mettre en place l'éducation dans tous les pays, quoi.
Alors un dernier sujet qui rejoint celui de l'alimentation, c'est celui des poissons et de la surpêche aujourd'hui, parce que ça aussi, donc évidemment ça vous inquiète, je crois qu'on a à peu près 40% de l'humanité qui doit se nourrir aussi avec des protéines issues de la mer. Mm-hmm. Bon, 90 millions de tonnes que l'on pêche aujourd'hui, ça bouge plus,
ouais.
Hein, on en est là, donc les deux tiers pour la consommation, un tiers pour faire des farines dans tous les sens.
Ouais.
Et puis ce que vous observez, c'est qu'actuellement on essaye de nourrir des poissons carnivores, je peux en penser à des barres, des saumons,
ben
etc.,
oui.
Mais avec des végétaux.
Ben oui, c'est ce que j'appelle les poissons de terre. Il y a les poissons de mer, qu'on a évoqués, 80 millions de tonnes, mais déjà aujourd'hui, la moitié des poissons qui nourrissent la planète viennent d'élevage à terre.
Mm-hmm.
Alors, vous l'avez bien dit, c'est qu'on nourrit les poissons avec des farines de poisson.
Ah oui, donc...
Et donc, on n'y arrive plus.
Non, on n'y arrive pas, là.
Et donc, l'idée, effectivement, c'est de faire des carnivores, des végétariens. On a fait des végétariens, des carnivores avec les farines animales.
Oui.
Essayons l'inverse.
Avec
des
gens, succès, oui.
Il y a des scientifiques qui travaillent là-dessus, qui font des poissons carnivores, des poissons végétariens.
Alors pour rester dans le domaine de la pêche, mais le dévier un tout petit peu, nous avons en ligne Frédéric Danhé qui intervient régulièrement dans cette émission. Bonjour Frédéric Danhé.
Bonjour Denis, bonjour Jean-Louis.
Bonjour Frédéric.
Alors vous êtes, on le rappelle, vous êtes écrivain, vous avez écrit de nombreux ouvrages, vous avez un DESS d'environnement. Et dans un livre que vous aviez écrit il y a quelques temps, qui s'appelait Plus de poissons à la criée, j'aimerais que vous nous fassiez le rappel entre Adam Smith, fondateur du capitalisme au XVIIIe siècle, et la morue.
Eh ben, c'est le poisson qui est un peu la colonne vertébrale de notre civilisation pendant 5 siècles, c'est la morue. La morue, pourquoi ? Parce que Adam Smith, en se promenant en Nouvelle-Angleterre, c'est-à-dire le nord-est des États-Unis, a remarqué qu'il y avait là un idéal capitaliste, c'est-à-dire une population à qui on offrait la mer, à qui on offrait une ressource, donc le premier arrivé, premier servi, sans aucune entrave. Et du coup, le principe de l'offre et de la demande, du marché libre, de la main visible du marché, était, à partir de ce qu'on appelait encore, et de ce qu'on continue à croire, la manne divine, eh bien ce principe théorique était matérialisé. Et donc, pour Adam Smith, c'était un exemple parfait de son idéalisation économique. Et dans son livre sur la richesse des nations, Adam Smith, du coup, fait l'éloge des pêcheurs de la Nouvelle-Angleterre. Voilà, les pêcheurs de morue, qui étaient tellement importants, je fais juste une petite aparté, ils étaient tellement importants dans le nord-est de l'Angleterre que c'est parce que la couronne britannique avait prétendu faire valoir des droits particuliers à la pêche que ces gens-là se sont mis en révolte. Et donc le Tea Party de Boston en 1773, acte fondateur de la Révolution américaine, il a été voulu à la fois par les pêcheurs de morue et par ceux dont ils dépendaient, les distillateurs de mélasse. Pourquoi ? Parce que la morue était vendue aux Antilles françaises en échange de la mélasse avec laquelle les distillateurs de Boston faisaient du très mauvais rhum. Voilà, la révolution américaine vient de la morue.
Et après, on a été dans l'accumulation pour l'accumulation, hein. On s'est pas arrêté.
Eh ben, pour voir l'évolution de notre système économique, il faut regarder la pêche. Voilà, on a... au départ un système capitaliste qui est de plus en plus devenu un système qu'on appelle maintenant le système néolibéral, c'est-à-dire on considère que la ressource est infinie, donc on ne lui donne pas de prix, on ne met aucune entrave, c'est-à-dire le droit de la mer n'a jamais changé, la mer n'appartient à personne et la ressource appartient au premier qui se l'approprie, donc c'est une course au loup si vous voulez, et donc sans aucune limite on a cessé de pêcher pour pêcher pour pêcher pour pêcher. Et le plus amusant, c'est qu'à chaque fois que les débarquements baissaient, comme à la fin des années 70 en Europe, et ben là, comme aujourd'hui, c'est le contribuable à qui on a fait appel pour, via des subventions, augmenter l'effort de pêche des pêcheurs. Alors, moyennant quoi sur la morue, hein, par exemple, on sortait 300 000 tonnes en 1950, on est monté à 800 000 tonnes en 68, en 75, j'ai retrouvé les chiffres, on est à 200 000 tonnes, en 1985 à 70 000 tonnes, et les stocks avaient fondu, ont été divisés par 10, pratiquement 10 ans.
Et aujourd'hui, on va juste rajouter que le montant des subventions attribuées aux pêcheurs, on leur vend pas une seconde parce que vraiment, c'est un métier de chien aussi qu'ils ont, c'est l'équivalent à peu près du chiffre d'affaires de la pêche française, voilà. C'est ce que j'ai vu dans votre ouvrage. Hein, donc,
exactement, c'est une économie, ce sont finalement des fonctionnaires voilà, à qui on pourrait dire faudrait peut-être arrêter, mais on n'ose pas le faire. Simplement, là, j'ai pris l'exemple de la morue, ouais. C'est pareil pour l'anchois, c'est pareil pour l'hoton rouge. Là-dessus, autant les agriculteurs ont compris des choses, autant les pêcheurs ne comprennent toujours pas que ce qu'ils sont en train de faire, c'est réellement de vider la mer, non pas de ses espèces, mais des populations économiquement viables.
Merci beaucoup Frédéric Danhé, plus de poissons à la criée, votre ouvrage. Merci à vous Jean-Louis Etienne, donc on vous retrouve avec ces nouvelles histoires naturelles, et puis donc bientôt en train de dériver autour de l'Atlantique, de l'Antarctique, pardon.
L'Antarctique,
oui, ouais. L'Antarctique.
À bientôt Denis.
Merci à vous, donc c'est aux éditions Jean-Claude Lattès, quand l'homme entre en scène. On se retrouvera la semaine prochaine. Où ai-je mis mon papier? Par là, ah oui, ça va être complètement autre chose. On aura Marc Jolivet, on aura Marc Giraud, naturaliste, on aura pas mal de surprises. Ça va être un pré-Noël, hein, si vous voulez. Merci à Sandrine Laurent et à Philippe Duclos, à la technique, à Stéphane Combe, notre assistant, à Valérie Ayestaraï qui réalise l'émission, à Jean-Baptiste Audibert, à Anne Gouzon qui nourrit les sites de CO2. Mon amour, un peu de pub ? Oui.